Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5. Et l'émission était aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. David Faure. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour M. Glorian.
Donc, vous êtes ici pour nous parler du Vénard de Marguerite. C'est un événement qui va se dérouler sur plusieurs journées, sur deux week-ends même. Le dernier week-end de juillet, le premier du mois d'août. Un retour donc de ce train, un peu en quelque sorte aussi, après toutes ces péripéties entre Covid, la remise en état de la ligne. On espère que c'est quand même une bonne ligne droite cette fois-ci.
Oui, bien. Donc, je vous remercie de me recevoir. Alors, en effet, c'est un train touristique historique et artistique qui existe depuis 2014. Et c'est vrai qu'on a eu entre une panne une année et la crise évidemment sanitaire qui nous a un petit peu freinés, plus les travaux sur la ligne de Grenoble qui nous empêchent de passer par Luz. Donc, cette année, nous comptons sur les lignes de Sisteron, de Briançon et vers Cré et Die, toujours au départ de Vennes. Donc, ça sera un train touristique burlesque et poétique. Et c'est entre le mercredi et le vendredi, je précise.
Donc sur deux week-ends, vendredi 27 jusqu'au dimanche 29. Et pareil pour le 3 août jusqu'au 5 août. Donc qu'est-ce qui va être proposé dans ce train qui va déambuler depuis Vennes et qui est programmé pour aller jusqu'à Mont-Dauphin ? On pourra peut-être aussi rappeler un peu ce que sont ces petites villes sur ce parcours.
Bien. Oui, c'est un train qui se voulait touristique pour faire découvrir les Alpes du Sud. Et beaucoup de personnes reconnaîtront que nous avons de très très beaux paysages. Nous avons vraiment parmi les plus belles lignes ferroviaires, en tout cas de France. Donc ce train, c'est l'occasion de découvrir tous ces terroirs. Donc en effet, le train ira à Mont-Dauphin le 3 août, toujours au départ de Vennes. Surtout pour les gens de la région de Die, ce sera le jeudi 28 juillet et le jeudi 4 août que même les gens pourront monter à partir de Die et aller à Cré. Donc, nous allons faire deux allers-retours dans la Drôme ces deux jeudis. Alors, au programme, c'est surtout que c'est un train historique parce que c'est un vieux coucou qui vient des Ardennes. Hein. C'est une association du nord de la France qui nous prête, qui met à disposition ce matériel roulant. Le tout avec une association qui est basée pour le coup dans le Centre Var. C'est l'association du train touristique du Centre Var et il faut vraiment dire que ce sont nos partenaires depuis le début de l'opération. C'est eux qui réparent ces vieux trains et les font circuler. Et cette année, nous avons à bord trois artistes très complet, comédien, clown, musicien, c'est la compagnie Alcès, ils viennent de l'Ardèche, pour nous présenter donc ce Vénard de Marguerite, c'est-à-dire Marguerite, une exubérante guide qui va vous faire vraiment découvrir tous ces merveilleux paysages, et accompagnée de deux acolytes, son cousin et sa cousine Péonia, donc le tout en musique, dans une ambiance très très burlesque, très décalée et également très poétique.
Ces artistes, la compagnie Alcès, elle est originaire de la région, j'imagine.
Ce sont des Ardéchois. Alors, ils viennent de Annonay. Alors, Alcès, ça veut dire, en fait, en latin, c'est l'élan. C'est l'animal, mais il y a un jeu de mots. Élan, vous voyez, le rebond et l'animal. Comme je dis, nous avons Marguerite, elle est à la fois guide conférencière et elle est comédienne. Et ces deux acolytes, ils ont plusieurs spécialités, plusieurs cordes à leur arc, notamment ils sont clowns à l'hôpital, donc ils ont de quoi vous faire un spectacle tout public. Voilà, c'est pas un voyage guidé uniquement pour les adultes. Vraiment, on a de quoi satisfaire les petits comme les grands.
Comment ça engage justement l'avenue du public à l'arrivée d'une de ces gares, en parlant de Vennes, Sisteron, Briançon, Cré et Die, Embrun et Mont-Dauphin, il y aura en quelque sorte une espèce d'événementiel à chaque gare pour marquer le coup.
Alors, c'est surtout à Vennes. Le tout va se jouer puisque le train part tous les matins de Vennes. Donc, c'est là où on accueille pour la billetterie. Et en même temps, les artistes, dès le quai, font une introduction au voyage. Ensuite, c'est vrai que nous avons très peu d'heures d'arrêt en fait, dans les gares desservies, donc c'est 1 minute, 2 minutes. Par contre, les gares de destination finale, que sont par exemple je pense à Die les jeudis après-midi, il y aura peut-être un spectacle un peu plus conséquent sur le parvis de la gare SNCF.
Ce projet du Vénard qui existe depuis 2014, pour vous, c'est un peu aussi un bol d'air pour le train et le maintenir aussi, parce qu'il y a eu souvent des menaces sur ce train.
Alors, l'organisateur, c'est la communauté de communes Buëch d'Évoluy, c'est elle qui a la maîtrise d'ouvrage de ce train. Et en effet, l'un des objectifs à l'origine, c'était vraiment montrer l'utilité du moyen de transport qu'est le train. Donc en prouvant déjà toutes ses capacités en termes de transport, mais également en termes de mise en valeur de nos terroirs et de nos paysages. Donc tout ça pour, comme je le disais au début, vraiment montrer la force, le caractère des paysages des Alpes du Sud. Bon, mettre en valeur les destinations.
Je me souviens, juste avant le Covid, ce projet était déjà en plan. Il y avait aussi, il me semblait, plus de compagnies et d'artistes qui œuvraient autour de cet événement, dans ce train, et qui permettait justement d'opérer même des petits spectacles lors de chaque trajet.
Ce sera le cas cette année, c'est-à-dire que les artistes restent à bord, et tout le trajet, vous avez des interventions. Alors, commentaires. Des paysages, mais commentaires qui sont vraiment, comme je dis, poétiques et burlesques. Le tout ponctué, scandé vraiment d'interventions, cette fois-ci plus clownesques. Donc, l'important, c'est que, comme un train souvent a plusieurs voitures, c'est que chaque voiture puisse être servie équitablement, que chaque passager puisse profiter aussi d'un moment justement décalé et burlesque. Donc, la compagnie vraiment a orienté le spectacle de cette année aussi pour que cela soit à bord du train ou dans la gare de destination, et celle de départ évidemment, il y ait vraiment quelque chose. Donc il faut vraiment que le passager soit emmené dans un autre univers.
Vous avez aussi introduit l'émission avec ce train qui vient notamment des Ardennes,
oui.
Je crois bien. L'ancien train, lui, qu'est-il devenu ?
Alors, nous avons eu, je crois qu'on commence à avoir plusieurs générations de Vénards qui portent pas souvent bien leur nom, puisque nous avons eu à des pannes. Alors, le premier, c'était donc une caravelle, c'est un autorail qui était à deux voitures rouge et crème, que tout le monde adore. Alors, celui-là, il a fait vraiment. Il est rentré dans la légende, c'est une X4500. Et malheureusement, ce autorail, il est en attente de réparation. Il y a un problème au turbocompresseur et c'est un vieux coucou. Donc, ça ne se répare pas comme ça. Il faut vraiment l'emmener en fosse. Ensuite, il y a un autre autorail qui est, lui, à trois voitures, qui est un autorail X4900 de couleur bleue, deuxième livrée. Hein. Lui aussi, restera à quai. Et cette année, alors, ça sera la surprise parce que c'est un autorail que je n'ai jamais vu, mais qui est prêté par une association. Donc, qui s'appelle la TVA, il me semble, association de train vapeur de l'Ardenne, qui vient d'Attigny, si j'ai bien fait mes recherches. Donc là, ça sera un peu la surprise pour tout le monde. Mais bon, ça prouve aussi qu'il y a une solidarité dans le monde des cheminots, puisque les associations de trains touristiques, qui sont nombreuses, se connaissent et peuvent se relier lorsqu'il y a besoin. Donc, ça se dépanner.
Vous-même étiez cheminot ?
Je n'ai pas été cheminot.
Non, ni banaliste.
Non, je suis juste historien de formation.
On reparlera de vous un peu plus tard. Ce qui me paraît intéressant, c'est justement ces existences d'associations disséminées un peu sur toute la France et qui, malgré tout, entretiennent, comme vous dites, une solidarité des cheminots. Ces associations opèrent-elles souvent ces échanges de trains entre associations ? Et puis, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il existe un réseau parallèle un peu à celui de la SNCF, qui permettent justement ces activités de train touristique.
C'est un monde bien bien compliqué qui mérite qu'on s'étende. Alors là, on a pour le coup une preuve qu'il y a une solidarité de dernière minute entre deux associations. Alors il existe une fédération, c'est qui s'appelle l'UNECTO. Alors c'est l'Union nationale de tout ce qui est train et patrimoine ferroviaire. Donc, nous connaissons le président, donc l'association du train touristique du Centre Vert en fait partie. Donc, c'est un lien. Alors, évidemment, il y a la SNCF, mais la SNCF, bon, ce sont nos partenaires dans le sens où nous ouvrent un réseau. Alors, voilà, c'est là où ça devient très compliqué. C'est que vous avez des trains touristiques qui circulent, et rares, voire ils sont les seuls, comme la TTCV, donc qui circulent sur le réseau national, le réseau SNCF. Et ensuite, vous avez énormément de lignes qu'on pourrait dire privées, enfin, à circuit fermé. Donc, pas trop loin d'ici, vous avez par exemple l'ancienne ligne Tournon-Lamastre, hein, voilà, dans l'Ardèche, c'est le Mastrou, hein, qui est assez connu. Mais là, on a vraiment un circuit qui est dédié. Voilà, on n'est pas sur le réseau ferroviaire national.
Vous-même êtes passionné du train ? J'imagine quand même.
Oui, alors c'est vrai que c'est... Enfin bon, voilà, je m'occupe de l'écomusée du cheminot vénois, à Vennes aussi. Et c'est vrai que grâce au train, j'ai découvert qu'on pouvait faire énormément, parler de beaucoup de choses en matière historique. Alors c'est pas que le train, c'est aussi les gens qui sont derrière. Enfin, les gens, les hommes, les femmes, de l'ingénieur qui a conçu, dessiné les ouvrages d'art qui sont magnifiques et sur lesquels on circule, jusque aux gardes-barrières qui étaient des femmes pendant très longtemps. On a vraiment une centaine de métiers. Alors voilà, c'est là où ça devient très très intéressant. Il y a l'aspect des sciences et techniques. Un train, il faut bien, c'est un engin mécanique qui doit rouler, que ce soit les trains à vapeur ou les trains diesel ou les trains électriques. Donc il y a tout ce côté très technique, très industriel qui est important. Puis vous avez derrière une histoire sociale et culturelle. Donc l'histoire des cheminots, c'est pas que des métiers, c'est des savoir-faire, puis c'est aussi des savoir-être, c'est une conscience de classe, c'est une histoire de solidarité. Donc il y a vraiment une culture cheminote. On trouve pas ça ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est très particulier.
En tout cas, cette activité économique perdure toujours de nos jours. Elle permet des activités professionnelles importantes actuellement.
Oui, alors, enfin, je parle que pour Vennes. Évidemment, nous avons toujours un bâtiment de voyageurs. C'est le départ de quatre lignes. Donc, c'est vrai que professionnellement, c'est la SNCF est un employeur. Encore aujourd'hui, bien que le dépôt ferroviaire n'ait plus ce qu'il était.
Juste peut-être pour être sûr, l'étoile de Vennes, c'est la même chose ou c'est une autre organisation ?
Alors l'étoile de Vennes, pour moi, c'est une appellation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette image. C'est le titre d'un ouvrage qui était publié, qui est aujourd'hui épuisé. L'étoile de Vennes, c'est très imagé, c'est très joli. C'est qu'au départ de Vennes, vous avez quatre directions. Sisteron, c'était la première ligne d'ailleurs. Ensuite Grenoble, trois ans plus tard, en 1878, si je me souviens bien. Puis après, la voie vers Briançon et puis la voie vers Valence. Donc ce qui fait de Vennes un carrefour et ce qui a permis d'y installer un dépôt ferroviaire. Donc voilà, on a cette appellation imagée et qui était en plus sublimée par un monument qui a aujourd'hui disparu, qui était la rotonde ferroviaire de Vennes. Donc,
voilà. Par rapport à la chaleur que l'on subit actuellement, est-ce que le Vénard permet justement de s'y rafraîchir dans son parcours au milieu de ces montagnes ?
Ah, courage, voilà, c'est que le Vénard se mérite aussi. Alors c'est vrai que là, il faut assumer, c'est un bon vieux train d'autrefois, à l'époque où la clim n'existait pas. On fait comme on faisait autrefois, on ouvre les fenêtres, et puis il faut bien penser à prendre de l'eau, hein. On a ce qu'il faut au cas où, mais c'est vrai, il y a cette particularité-là, voilà, qu'il faut assumer, c'est l'été, c'est la saison touristique, mais on ne peut pas tout avoir.
Là, ce sont des dates justement qui sont en pleine période touristique, hein, période estivale. Est-ce que sur les autres périodes de l'année, vous envisagez de poursuivre ces représentations et ces voyages un peu de spectacle ?
Alors, ça, c'était des réflexions. Alors, pour l'instant, on a levé le pied sur ces réflexions. Alors, c'est vrai qu'au départ, le Vénard commençait même avant le 14 juillet. Et on s'est aperçu que que notre fréquentation, c'est surtout entre le 14 juillet et le 15 août. C'est la fenêtre de tir qui est, qui est propice à ce qu'on ait du monde. Et on a pu le prouver l'an dernier, donc on pense avoir trouvé la bonne période. Bon, ceci étant, il est vrai que nos régions gagneraient à être connues également dans ce qu'une collègue appelle les ailes de saison, donc, y compris ce qu'on peut appeler les basses saisons, donc où on a genre le mois de mai, l'automne, hein, avec ses magnifiques couleurs, donc ça serait propice. Ceci étant, c'est une opération qui est assez complexe à monter, et financièrement et techniquement. N'oublions pas que nous travaillons avec des bénévoles, que les bénévoles, ça prend des jours de congé pour travailler, et c'est très difficile d'avoir un train en permanence à l'année. Donc d'où toutes ces réflexions qui sont très très difficiles à avoir. Alors néanmoins, la TTCV a pu proposé il y a quelques années le train du Père Noël début décembre, et ça a très bien marché, donc on voit que il faudrait tester toutes les formules et peut-être d'autres types de voyages avec des escape games, pourquoi pas un jour.
Les trajets par exemple en partant de Vennes et en arrivant jusqu'à Mont-Dauphin, ça prendrait combien de temps pour ce parcours?
À peine un peu plus d'une heure. Voilà. Voilà, Vennes-Mont-Dauphin, c'est, si vous voulez, Vennes-Briançon, c'est pratiquement 2 heures. Donc, voilà, 1h15, 1h20 à peu près pour aller à Mont-Dauphin. C'est avant d'attaquer vraiment Mais là, on entre dans les Alpes.
Et je reviens alors sur cette question. Le parcours le plus long, c'est lequel?
Vennes-Briançon, sans hésiter. Voilà, 2 heures. Exactement. L'aller.
Les artistes qui sont proposés, est-ce que vous tendrez aussi à ouvrir aussi d'autres propositions de compagnies qui voudraient peut-être se présenter dans ces trains?
Alors, c'est vrai que nous avons opté cette année pour ils ont répondu à un appel d'offres. Voilà. C'est pour que...
D'accord. Donc vous opérez par un appel d'offres qui est renouvelable chaque année?
Voilà, chaque année. Donc l'année prochaine, j'ignore. Voilà, mais nous avons choisi ce modèle pendant 2 ans.
Vous parliez tout à l'heure des cheminots. Combien de personnes qui sont retraitées, j'imagine, et qui, par amour du train, persistent ou continuent à travailler sur ce véhicule Combien de personnes servent le train pour un trajet?
Ah, question de bénévoles. Là, c'est difficile, mais je pense que c'est presque dans une fourchette entre 5 et 10. Alors, il faut savoir, c'est un peu, même si ce sont des bénévoles, ils vont respecter les règles de sécurité propres à la SNCF. Sinon, on ne roule pas. Alors il faut bien sûr, il y a le conducteur. Mais il est obligé d'être accompagné par un cadre de traction, donc, parce que le conducteur, c'est un cheminot, évidemment, il sait conduire, mais parce qu'on est sur un réseau national, il faut qu'il y ait donc un cadre de traction de la SNCF qui soit là. Alors déjà, ça fait 2 personnes. Alors sachant que si on fait un trajet un peu long, Vennes-Briançon, il va falloir quelqu'un pour le relier. Donc on a aussi le conducteur relais. Et puis il faut aussi un chef de train, parce qu'en fait il faut siffler, faire des annonces, les annonces d'entrée en gare lorsqu'on quitte une gare, les annonces de sécurité, ne pas fumer, ne pas servir des toilettes durant l'arrêt. Enfin, tout ça est très codifié, il faut le savoir, même dans un cadre d'un train touristique organisé par une structure externe à la SNCF, il y a un règlement à respecter. Et ensuite, il faut bien comprendre que sur le quai, pareil, il faut faire très très attention, on a du monde, donc on doit veiller à ne pas gêner justement le service de la SNCF et ses passagers. Et il faut faire très très attention que des gens n'aillent pas dans des endroits où il ne faut pas se risquer. Donc tout ça demande du bénévolat. Donc en dehors des conducteurs, il y a aussi, pour circuler dans le train, des fois entre 3 et 4 personnes bénévoles, je dirais, même si c'est en cheminote, elles sont bénévoles et elles vont compter les passagers, surveiller, veiller au règlement. Voilà, donc tout ça, il nous faut du monde.
Comme vous le disiez aussi, par ces temps caniculaires, on peut ouvrir les fenêtres. Ça, c'est une possibilité couramment de pouvoir le faire. Et est-ce que... Voilà. La question, c'était, est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir ces fenêtres toute saison, quand le train roule, et de pouvoir voyager, par exemple, la tête, la fenêtre, pour apprécier le paysage?
Ah non, enfin, si vous voulez, c'est en entrebâille, les fenêtres, pour faire entrer l'air. Mais il y a une chose qui est évidente, il ne faut jamais, en aucun cas, se pencher la tête à l'extérieur du train. Alors ça, on veille, c'est annoncé aussi au micro, bon, pour la raison que, d'une part, on franchit des ouvrages d'art, notamment des tunnels, donc ce serait malheureux d'avoir la tête à ce moment-là à l'extérieur. Et après, on n'est pas certain qu'il y ait un entretien, vous savez, des végétaux qui bordent la voie. Donc, bon, c'est pas marrant de se recevoir un branchage dans la tête si vous êtes uniquement parce que vous avez voulu prendre une photo. Donc je recommande de ne pas se pencher à l'extérieur. On se contente d'entrebâiller, si faire se peut, les fenêtres.
Il y a un service aussi de rafraîchissement dans ce train pour les voyages.
La TTCV y veille. Donc elle a son propre service. Donc elle propose des boissons à la vente. Des boissons et quelques grignotages. Pour nous, par contre, nous proposons de notre côté, la TCCV, un panier repas, justement, parce qu'on a voulu faire écho au panier du cheminot. Alors là aussi, c'est une appellation. Autrefois, les cheminots qui partaient en service partaient avec leur panier en osier dans lequel il y avait tout le casse-croûte. On a voulu faire un écho à ceci en proposant donc un panier repas à la vente, à réserver. Bon, enfin, on prévoit au cas où des d'eau, parce que sait-on jamais, si le train est immobilisé sur la voie, c'est une obligation que de fournir de l'eau aux passagers.
Ce train, qui existe depuis 2014, est à l'initiative donc de la communauté de communes du Bouèche d'Évoluy. À cette époque, pour vous, qu'est-ce que représentait la nécessité de ce train ?
C'était une expérience. Alors, c'est vrai que depuis l'économisé du cheminot vénois, il existe depuis 1999. Bon, il a été créé donc à la fois par l'ancêtre communautaire de la communauté de communes Bouèche d'Évoluy et surtout l'association des amis de l'économie du cheminot, donc tous bénévoles, tous des cheminots chevronnés et passionnés. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée de, bon, c'est bête d'avoir... on est au milieu de ligne encore en activité, on a un musée, et ça serait... Et voilà, si ça gambergeait, il fallait à tout prix, et pourquoi pas un train touristique. Et je sais pas, il y a eu tout un alignement de planètes, on va dire, des associations d'artistes locaux qui ont repéré donc, l'association du train touristique du Centre Var, et qui sont réunis autour d'une table et qui ont vraiment lancé le Vénard, première formule, en 2014. Donc, de façon tout à fait empirique, d'après ce qu'on m'a raconté, mais avec un succès qui a fait qu'on a recommencé chaque année depuis.
Depuis Die, au départ de Die, ce train permet d'accéder sur quel contrée ? Là, je vois, par exemple, il est marqué sur le lac de Serpenson.
Alors là, ça sera très difficile. Alors cette année, on n'aura pas d'envergure, si vous voulez.
De circulation, voilà.
on va
de correspondance.
À partir de Die. Alors ceci étant, ce n'est pas de la flagornerie, parce que je suis très content d'être à Die, mais je crois que nous avons, et même je suis persuadé que nous avons une des plus belles lignes sur la portion, donc justement, Venne, Die, et même au-delà, Vercré, aux questions paysagères. Et c'est un trajet qui plaît énormément. C'est un trajet, en tout cas, au départ de Venne, que les gens vont chérir parce qu'ils adorent passer sur le viaduc du Claps, avec justement un panorama vraiment imprenable sur le saut de la Drôme et son chaos rocheux. Alors ça, c'est un peu un des clous du spectacle, et ça on n'y peut rien, c'est la magie du paysage. Alors je me souviens justement de tous ces champs de tournesol aussi, fin juillet, début août, le tournesol, les très très belles montagnes, les contreforts du Vercors, tout ça font que les gens vont prendre ce voyage. Puis après, le long de la Drôme, qui est aussi une très très belle rivière, on a une vue sur les Trois Becs et le massif dessous, la tour de Cré qu'on aperçoit très loin. Donc tout ça fait que c'est très très prisé. Par contre, évidemment, on ne peut pas aller, malheureusement, cette année, si on part de Die, on ne pourra pas aller vers Embrun, il faudra monter à Venne en voiture. Voilà,
c'était. Mais ça tendrait à se développer, cette espèce de ramification et de correspondance pour se déplacer dans ce secteur et d'aller, par exemple, pour le plaisir, justement, de se rendre à ce lac pour se rafraîchir, par exemple, depuis Die. Est-ce que ça tendrait à cette réflexion, tant à développer cet aspect-là ?
Nous l'avons eu. Alors, merci le Covid encore une fois, parce qu'il nous a freiné totalement. Mais nous avons eu des rencontres avec l'Office du tourisme, justement du Diwa, pour réfléchir justement à comment faire lien entre les deux régions, parce que c'est vrai qu'on a deux régions administratives, deux départements, deux vallées, et pourtant, ce lien qui est justement qui est la ligne ferroviaire. Et là, il y aurait peut-être, voilà, à condition d'avoir une bonne réflexion, de choisir de créer un bon produit qui pourrait justement lier justement ce lac de Serre-Ponçon et cette vallée de la Drôme, donc qui sait, un jour. Donc, c'est affaire à suivre.
Au-delà même des voyageurs, est-ce que ce train aussi peut prendre, par exemple, quelques marchandises, j'imagine, pour des circuits courts de production alimentaire, des choses comme ça? Est-ce que ça, c'est envisagé? Est-ce que c'est déjà, de fait, accompli?
Non, enfin voilà, c'est vrai que oui, on pourrait justement se servir aussi de ce train comme justement promoteur du savoir-faire et des créations locales. Alors, mais dans transport de denrées, non. Par contre, c'est vrai qu'il fut une époque où nous avons accueilli à bord des producteurs. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu... ça faisait aussi partie de ce train touristique, le train gourmand. Alors, on a notamment des producteurs de la région de Vennes, mais on a aussi eu des producteurs de la Drôme, que ce soit en termes de biscuiterie, bière, enfin... Mais voilà, c'était expérimental, mais c'est assez dur à mettre en place aussi. Les producteurs en été sont très, très, très pris ailleurs, il faut le dire.
Comment se sont opérés les partenariats de toutes ces petites villes qui sont sur ces trajets? Qu'est-ce qui est proposé aussi au-delà de ce voyage pour l'accueil de chaque personne qui peut peut-être même s'arrêter si elle souhaite et de rentrer par ses propres moyens ensuite?
Alors c'est vrai que nous, on essaie de privilégier les allers-retours. Bon, c'est ce que vont faire les gens, rester dans le train. Nous avons de temps en temps des gens qui prennent un aller seul, parce qu'ils ont vu, ils veulent se déplacer du point A au point B. Alors, question promotion des territoires justement desservis. Alors ça, c'est assez compliqué parce que dès lors que l'on connaît les horaires, ce qui n'est pas évident, c'est un jeu de casse-tête chinois de déterminer les horaires, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas prioritaire. Le Vénard n'est pas un train SNCF, il n'est pas un train de voyageurs, il doit se faufiler, si vous voyez l'expression, entre deux trains officiels. Donc on est vraiment tributaire de ces horaires. Alors une fois qu'on sait à peu près les horaires, on se pose la question, ils sont les temps d'arrêt. Voilà, on monte à Briançon. On a la possibilité, si on fait deux allers-retours, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller, de rester toute la journée. Alors, Briançon est une destination qui se suffit à elle-même. Il y a tellement de restaurants, de choses à visiter que les personnes n'ont pas besoin de nous pour être aiguillées. Alors, ceci étant, on prend contact quand même avec les services historiques et patrimoniaux des villes comme Embrun et Briançon pour savoir si on ne peut pas proposer une visite guidée du centre historique spécialement pour nos passagers. Et donc ça a très bien marché les années précédentes avec Embrun. Là, cette année, on continue avec eux, puis on va le faire aussi pour Briançon. Donc il y aura la possibilité de visiter la cité Vauban, par exemple, à 15h les vendredis. Voilà, c'est avec un supplément de 5 euros, mais, et la possibilité de visiter aussi Embrun le 3 août à 14h30. Voilà, donc c'est, tout dépend des horaires, et c'est à partir de là que l'on essaye de trouver des formules. Mais à dit, le temps d'arrêt suffisamment pour les caves de Clairette qui sont proches de la gare. Donc, et les gens adorent ces formules-là aussi.
Ce train, justement, depuis sa création, a vu un public sans cesse croissant pour ce voyage.
Il semble qu'on atteigne maintenant une reconnaissance. C'est-à-dire que les premières années, c'était l'expérience. Donc les personnes cherchaient l'originalité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce train? Ensuite, il n'y a que 4 lignes. Donc, après avoir testé 4 lignes, bon, ça fait 4 ans, peut-être des personnes sont arrêtées de monter à bord. Alors, ceci étant, grâce à chaque année, en prenant une compagnie différente, on donne une couleur artistique différente. L'an dernier, on avait une couleur qui était plutôt polar, sombre. Donc l'affiche était très noire, ambiance Agatha Christie. Cette année, on a pris quelque chose de beaucoup plus solaire, lumineux, burlesque. Donc c'est ça qui fait que les gens vont dire « Tiens, cette année, j'y monte parce que je veux découvrir cette nouvelle couleur. » Puis après, il y a les vacanciers qui viennent, bon, qui eux, comment dire, ne connaissent pas du tout l'événement. Donc ils sont là de façon tout à fait opportune. Et après, on a aussi des fidèles. Donc la croissance, elle est liée, je pense, surtout à la périodicité, c'est-à-dire le fait que ce soit fin juillet, début août, qui nous donne plus de chances d'avoir des passagers. malgré une surenchère d'événements à cette période aussi qui font concurrence. Mais voilà, chacun son goût, voilà, on force personne. Hein.
Le Vénard, on peut retrouver sa brochure aux offices de tourisme, j'imagine, celui du Digoy aussi.
Voilà, ben je vais y courir, je vais les contacter, voilà, donc tout à l'heure, je vais faire un tour à l'office de tourisme de Digoy.
J'imagine aussi à la gare de Die, certainement un dépôt de ces dépliants. Et dans certains commerces, peut-être du Digoy, comme une agence de voyage, par exemple.
On va faire ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'il faut, parce qu'on est équipe réduite. Ça, c'est donc on court un peu partout, mais ça, c'est voilà. Bon, le cœur à l'âme. Hein, donc en tout cas, ces points comme la gare et l'office de tourisme, voilà, sont tout à fait stratégiques. Et puis, s'il y a lieu, voilà, des commerces et puis les espaces d'affichage autorisés que l'on croisera sur notre route.
Il y a certainement un site internet également.
Et oui, alors le www.venart.fr, donc Venart sans apostrophe, VUYNART.fr. Si, on a une page Facebook, oui, aussi, c'est le Venart, voilà. Avec, je crois, que l'apostrophe, voilà. Et puis c'est relié. Il faut aussi souligner aussi le rôle de l'Office de tourisme, c'est aussi des sources du UH, ce qui est à Vennes, donc qui nous aide beaucoup pour le relais d'informations et les réservations.
Je reviens aussi sur le musée, un musée qui se trouve où précisément?
Donc, alors l'écomusée du cheminot viennois, bien voilà, de là où tout est parti. Alors c'est un écomusée, donc c'est-à-dire que c'est un musée qui est attaché à un territoire, qui est vraiment lié donc à l'histoire de Vennes, donc il y a vraiment des racines dans ce lieu. Alors pourquoi? Parce que Vennes a été dépôt ferroviaire, Vennes était vraiment une cité cheminote. Donc c'était vraiment la principale activité économique, avec tout ce qui va avec, donc retombées économiques, mais également une sociabilité et une culture, il faut le savoir. Donc dans les années 90, il y a des cheminots actifs, mais beaucoup aussi de cheminots retraités, dont la plupart ont connu les trains à vapeur. Donc je les salue au passage, hein, ici. Ils ont dit, pour pas que ces objets et les savoir-faire se perdent, ils ont commencé à collecter, vraiment, ils ont fouillé les vieilles gares, toutes les gares désaffectées, ils sont allés dans les greniers, ils ont sauvé des objets, ils ont sauvé des archives. Tout ça de quoi créer un musée avec même des restitutions. Donc un musée qui est né en 1999, où vous trouverez par exemple une cabine de locomotive. Les fameuses, vous savez, les 141, donc celles qui ont été livrées après la guerre donc par les Américains. Donc vous avez vraiment une cabine qui est refaite. On a imaginé à quoi pouvait ressembler le bureau d'un ingénieur de la construction, donc celui d'Adrien Ruel, donc qui est le père fondateur de l'Étoile de Vennes. Donc il y a une sorte de restitution hypothétique. Et puis vous avez un guichet, vous avez les travaux de la voie, une portion de rail avec tous les outils qui vont avec, un film avec des témoignages de cheminots, et puis trois maquettes. Alors là aussi, il faut souligner vraiment le travail de bénévoles de cette association, mais pas que, qui ont créé il y a quelques années un réseau de 25 mètres carrés, alors qui fait pratiquement comme la pièce ici, tout assisté par ordinateur. Moi, ça me permet aussi de saluer au passage l'association qui est Serre Express Rail 05 qui est à Serre, mais voilà, qui là-bas à l'étage de l'école, ils ont aussi développent leur propre réseau, mais qui nous ont fait un très très joli travail donc à cet écomusée. Donc on pourrait parler pendant des heures sur ce que représente cet écomusée du cheminot. Faut bien dire, c'est pas le musée du train, c'est l'écomusée du cheminot vénois.
L'histoire du train autour de Vennes est-elle liée aussi, vous parliez d'activité économique, que permettaient justement ces trains par rapport à l'économie locale
Alors, il faut vraiment se remettre dans un autre contexte. Alors, c'était il y a bientôt 150 ans. Où le train est vraiment lié à la révolution industrielle. C'est-à-dire que on est passé d'un territoire qui était essentiellement rural, et puis suivant ce que l'Angleterre, c'est vrai qu'il était un petit peu en avance à l'époque, on a commencé à mettre sur rail tous ces engins de locomotion qui ont accéléré en fait la production et l'acheminement de denrées. Tout ça lié. Donc, à la fois, le train a profité de ses progrès techniques et à la fois, il en était le vecteur et un des principaux moyens de transport. Donc, tout cela est lié. On a eu un ministre qui s'appelait Fraissinet qui, lui, a décidé qu'il fallait que tout le réseau, enfin, toutes les sous-préfectures soient reliées les unes aux autres. Alors, ce qui a pratiquement été fait. Alors, il y a quelques sous-préfectures qui échappent encore qui ne sont pas reliées entre elles, mais en tout cas, pour Vennes, on a transformé l'essai parce que c'est vrai que on n'a jamais eu vraiment de grande industrie dans la vallée. On avait toujours eu des proto-industries ou des tentatives. Donc, on a notamment, je pense, à des cimenteries, à des industries textiles. Mais le fait d'avoir été relié au train a permis déjà de créer de l'emploi en faisant dans le chemin de fer lui-même. Mais après, a été un formidable importateur de denrées. Il y a eu, je pense, un avant 1875 et un après 1875, en matière, même peut-être même de mode de vestimentaire. Bon, sachant que déjà, Vennes était déjà un chef-lieu. Il y avait déjà des professions tertiaires et commerciales. Mais en tout cas, le train était un formidable accélérateur de modernité.
Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle aux auditeurs donc le Vénard de Marguerite qui circulera sur deux week-ends, les 27, 28, 29 juillet, avec Adi le samedi 28.
Jeudi 28 juillet.
C'est jeudi.
Voilà, c'est jeudi 28 juillet et jeudi 4 août. Voilà.
Et jeudi 4 août. Eh bien, je vous remercie, David Fort-Vincent, d'être venu sur Ardua pour nous parler du Vénard de Marguerite. Je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie de même. Je suis toujours très content de venir à Die.
Merci. Au revoir.
Au revoir, monsieur. Thank you.